Élise, ce matin, j'imagine que en édition spéciale, il sera nécessairement question des otages de la guerre, et ce, avec votre invité que je vous laisse le soin de nous présenter.
Oui, ce matin, je suis ravie d'être en ligne avec Daniel Haïk, analyste sur I24 News. Bonjour Daniel.
Bonjour Lise, Boker Tov.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. C'est vrai que hier soir, l'espoir a un peu repris dans la société israélienne avec cette nouvelle libération de 11 otages et la prolongation de la trêve pour 2 jours, Daniel.
Oui, effectivement, on peut dire que il y a un espoir, et on peut dire que chaque soirée apporte son lot d'espoir et d'émotion dans la société israélienne. Et c'est vrai, il faut le reconnaître, hein, Lise, l'arrivée de ces otages, essentiellement, vous le savez, ce sont des enfants, essentiellement, oui. Ce sont des femmes, dans leur immense majorité des femmes, des mères de famille ou des grands-mères. Eh bien, ce retour des otages, eh bien, provoque, on va dire, un impact favorable au sein de la société israélienne. Une société israélienne qui, on peut le dire, depuis le 7 octobre, était dans une forme de psychose, dans une forme de post-traumatisme après les événements vécus le 7 octobre. La société israélienne, eh bien, accueille avec une forme de satisfaction, de joie et d'émotion, donc, ces otages libérés. La question que l'on peut légitimement se poser, c'est de savoir, est-ce que finalement, cette émotion ne risque pas de retarder de journée en journée la reprise des combats, celle qui est annoncée depuis toujours et par l'échelon politique et par l'échelon militaire, qui affirme que pour décimer le Hamas, eh bien, il faut bien entendu reprendre le combat de plus belle. C'est ce qu'a dit hier soir Yoav Gallant, le ministre de la Défense. Et donc la question est, est-ce que jusqu'à quand, eh bien, on peut essayer de jouer d'une certaine manière, d'essayer de favoriser le dossier des otages, du retour des otages en Israël, sur la nécessité de reprendre le combat. Alors, effectivement, pour l'instant, Israël semble avoir trouvé une sorte de juste milieu avec le Qatar et indirectement donc avec le Hamas pour permettre la poursuite d'une trêve en échange de la libération de 10 otages au quotidien. Et à la fin de cette période, donc, on estime que cette période va se prolonger jusqu'à une dizaine de jours, c'est-à-dire encore une semaine supplémentaire, ou peut-être un peu moins, 6 jours, pour permettre donc à au moins une centaine d'otages d'être libérés. C'est effectivement aujourd'hui la priorité pour Israël, mais on n'élude certainement pas l'autre objectif de la guerre, qui est celui de d'éradiquer le Hamas. Et quelque part, je dirais que même au sein de l'opinion publique israélienne, de l'opinion publique internationale, il y a, on va dire, un sentiment aussi de compréhension du narratif israélien. Si au début de la semaine dernière, lorsqu'il avait été question de cette trêve, eh bien, l'opinion publique internationale, eh bien, l'exigeait pour pouvoir venir en aide humanitaire à la population civile de la bande de Gaza, aux Palestiniens, eh bien là, quelque part, il y a une sorte de retournement, et vous êtes peut-être mieux placé lorsque vous êtes à Bruxelles ou en Europe pour le dire, il y a peut-être une forme de retournement, de modification des priorités. On parle beaucoup plus des otages, de leurs histoires, de l'histoire de ces enfants qui ont été détenus pendant plus de 50 jours dans les prisons du Hamas. Et cela apporte, on va dire, une sorte d'abord de sensibilité, de compréhension envers l'État d'Israël, et peut-être permettrait par la suite de légitimer le retour pour Israël d'une seconde manche sur le terrain avec la prise d'autres points forts de la bande de Gaza, comme en particulier la localité de Khan Younes, qui est le bastion des frères Sinoirs.
Alors, c'est vrai, Daniel, qu'il y a plus d'émotion et peut-être plus de solidarité actuellement en Europe par rapport à ces histoires d'otages. Et justement, il y a 2 enfants qui sont devenus très symboliques pour le monde entier. C'est Kfir et Ariel Bibas. Kfir, qui est le bébé, qui est âgé de 10 mois maintenant, et son frère Ariel. Est-ce que vous pensez que le Hamas sait cela et du coup va essayer de les garder jusqu'à la dernière minute comme assurance vie, de manière tout à fait cynique, Daniel?
Oui, ça ne fait aucun doute, Lise, ça ne fait aucun doute. Vous savez, Hirsch et Sinoir, on l'a dit, mais il faut toujours le répéter, Hirsch et Sinoir prétend parfaitement connaître la société israélienne, il l'a pratiquée, il la connaît, il parle l'hébreu parfaitement. Hirsch et Sinoir, et d'ailleurs une information assez stupéfiante hier soir d'Amit Segal de la chaîne 12 annonçait que Hirsch et Sinoir était venu rendre visite à une partie des otages quelques jours après le 7 octobre en leur parlant en hébreu, en disant qu'ils n'avaient rien à craindre, qu'ils étaient sous sa responsabilité. Hirsch et Sinoir connaît parfaitement les forces et les faiblesses de la société israélienne, et les faiblesses, et bien entendu, cette morale, cette éthique, en fait, tout ce que Hirsch et Sinoir n'est pas, c'est-à-dire une forme de la compréhension de la nécessité de sauver une vie, de sauver une seule vie, même celle d'un enfant, celle d'un adulte, celle d'une personne âgée, et il sait que c'est le point faible de la société israélienne. Et je dirais qu'il, bien sûr qu'il en profite, bien sûr qu'il sait que Kfir Bibas est aujourd'hui, ce bébé de 10 mois est aujourd'hui un symbole. Et même si aujourd'hui, de manière sournoise, le Hamas affirme que les deux frères Bibas ne sont pas en sa possession, mais qu'ils se trouvent apparemment entre les mains d'une faction palestinienne, il est clair que le Hamas sait où ils sont. Il est clair, la preuve, c'est que hier, pas plus tard qu'hier, le Hamas a voulu libérer deux femmes âgées à la place de deux mères de famille qui devaient être libérées avec leurs enfants. Israël a opposé un veto radical et a fait passer le message via les Américains qui ont fait passer ce message aux Qataris. Et le Hamas s'est plié. Il a dans un premier temps affirmé qu'il n'avait pas les mères des enfants, mais finalement il les a retrouvées. Donc il est capable de retrouver Kfir Bibas, le petit bébé, et il est capable de retrouver tous les otages s'il le veut, si ce sont des otages qui sont détenus par le djihad islamique, par d'autres factions palestiniennes. Ça, il sait le faire, le Hamas. Mais et donc il est clair qu'il garde cette clé à partir du moment où Kfir Bibas est devenu un symbole. Eh bien, il est probable qu'il est dans l'environnement de Hirsch et Sinoir et que Sinoir s'en sert, on va dire, ou virtuellement ou concrètement comme bouclier humain. On a franchi plusieurs paliers dans l'horreur. Eh bien, c'est un des paliers que le Hamas auquel le Hamas nous confronte de mettre un bébé de 10 mois comme bouclier humain d'un terroriste comme Hirsch et Sinoir.
Oui, bien sûr. Et justement, Daniel, en parlant de ça, on l'a vu aussi dans le témoignage de la petite Hila Rotem qui assurait qu'elle était avec sa maman pendant toute sa captivité, sauf les deux derniers jours juste avant sa libération. Donc, clairement,
c'est exactement le même cas de figure. Le Hamas joue avec les cordes sensibles de la société israélienne. Dans le cas de Hila Rotem, il sait que la mère Raya Rotem est entre ses mains, mais il l'a séparée de sa fille. On n'a pas besoin d'être un grand défenseur de l'état de droit pour comprendre qu'il y a là une forme de cruauté sans précédent. Et le Hamas joue avec cela et il sait que les Israéliens sont extrêmement sensibles. La question est de savoir justement si finalement, et moi je me pose la question parce que c'est peut-être une analyse que je fais personnelle, mais je me demande si finalement, à force de manipulation, à force de manœuvres sordides comme celles auxquelles il nous a habitués ces derniers jours, eh bien, tout cela ne se retourne pas contre le Hamas. Est-ce que finalement, au sein de l'opinion publique internationale, eh bien, à chaque fois qu'il y a un retard, à chaque fois qu'il y a une séparation cruelle entre des parents et des enfants, à chaque fois que le Hamas détient un bébé et s'en sert comme bouclier, eh bien, cela ne se retourne pas contre lui et qu'aujourd'hui, finalement, cela donne une forme de légitimité à l'État d'Israël pour aller de l'avant, pour l'éradiquer le plus définitivement possible.
Justement, ma dernière question là-dessus, Daniel, est-ce que ça n'est pas difficile pour les soldats de Tsahal, cette attente de ne pas savoir quand est-ce, parce que les combats, c'est très difficile, mais d'être dans l'attente sur les lignes de feu, toujours à Gaza, est-ce que ça n'est pas encore pire pour les soldats israéliens ?
Oui, c'est une attente extrêmement difficile d'être statique dans un environnement hostile comme celui de la bande de Gaza. C'est statique et même parfois dangereux pour les soldats israéliens. On dit que les officiers, les chefs de brigade et de bataillon de l'armée israélienne eh bien, se sont positionnés de manière en multipliant les précautions pour préserver, bien entendu, la vie des soldats. Et bien entendu, on est dans l'attente. Chaque soldat, les soldats attendent de reprendre le combat pour aller de l'avant, pour aller jusqu'au bout de leur mission. Parce que même si, bien entendu, suivent avec beaucoup d'attention et d'émotion aussi cette libération des otages, eh bien, ils veulent en découdre avec le Hamas jusqu'au bout. Là, le moral, pour l'instant, des forces israéliennes n'a pas baissé. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas maintenir stratégiquement une armée entière sur une position statique comme celle-là, à l'intérieur de la bande de Gaza. Il faut que les soldats puissent aller de l'avant. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il y a des pressions aujourd'hui pour que, après une prolongation de la trêve au maximum, afin que l'on puisse récupérer un maximum de femmes, de personnes âgées et d'enfants, eh bien, on aille de l'avant et on lance la seconde partie de cette offensive, en particulier autour de la ville de Khan Younes.
Merci beaucoup, Daniel Haïk, journaliste, analyste sur I24 News, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka.
Merci. Merci, Lise. À bientôt.
À bientôt.